La REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.
On est en direct pour justement cette seconde journée de la REF. C'est un peu le marqueur de la rentrée économique de France des entrepreneurs. Bien évidemment, on est ravis d'être avec vous. Nous sommes à Roland-Garros. On vous l'avait dit, voilà, justement, c'était un petit peu trompé. On l'attendait hier, mais finalement, c'est bien aujourd'hui qu'il est avec nous. On a le plaisir de recevoir le ministre du Logement qui est avec nous. C'est Vincent Jeanbrun. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Merci de prendre le temps. Je sais que votre temps est compté. Pour le coup, vous avez un agenda de ministre. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Quand on vient ici à la REF rencontrer les entrepreneurs avec cette dimension du logement qui est quand même un peu la dent creuse en ce moment en termes de politique publique, qu'est-ce que vous venez percevoir et ressentir comme impression ?
D'abord, Sylvain, on vient dire quelque chose et on vient dire notre reconnaissance parce que quand on est ministre du logement, on dit bravo et merci aux entreprises qui produisent le logement et donc qui produisent la maison des Français. Sans eux, pas de logement. C'est pas le ministre du logement qui construit hein, pierre après pierre les bâtiments. Et donc, je leur dis merci et tenez bon, parce que même s'il y a une crise du logement majeure, on est à vos côtés et on fait tout ce qui est possible pour faire en sorte qu'on sorte de cette crise du logement. Et puis, un grand merci à toutes les entreprises, parce qu'indépendamment de celles qui produisent du logement, des dispositifs majeurs comme ceux portés par Action Logement, qui les financent ? Ce sont les entreprises. Action Logement, c'est le plus grand producteur de logements abordables en France. Le plus grand, le plus important, le plus massif. C'est eux qui financent, et c'est le premier financeur de l'ANRU, de la rénovation urbaine, qui évidemment en matière de logement, en matière de production de logement, est un outil considérable. Et donc oui, en tant que ministre, on vient dire merci, on vient dire continuez comme ça, et surtout tenez bon, on va faire en sorte que les règles du jeu changent pour que vous ayez un peu plus d'oxygène et que ça avance.
Le thème de la REF 2026, c'est le courage. Hein, courage, avec un mot employé par Patrick Martin à son discours d'ouverture, s'il y a bien un sujet qui demande du courage politique, hein, pour le coup, c'est bien le logement. Construction en panne, pénurie locative, difficulté à se loger près de son travail, rénovation énergétique et j'en passe. Adaptation canicule, avec un vrai sujet qui a été mortifère cet été, bien évidemment, avec en toile de fond une campagne présidentielle qui approche et qui augure effectivement d'un combat acharné autour de cette thématique. Si on devait prendre aujourd'hui une photo du logement avec cet état quasi de permacrise que subit le logement depuis quelques années, on vient de recevoir les statistiques effectivement du logement étudiant qui ne sont pas bonnes du tout, une attrition totale de la location au niveau du marché, de l'accession à la propriété, ou même l'INSEE considère le logement comme un produit de luxe. Quand on est le ministre du Logement, vous avez été moteur justement dans vos dispositifs, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que ça peine encore à reprendre ?
De toute façon, on s'était fixé un objectif avec le Premier ministre, c'est de réunir l'équipe de France du logement pour se fixer un objectif très ambitieux de produire 2 millions de logements d'ici 2030, mais on avait dit les choses. Il n'y aura pas 2 millions de logements d'ici 2030 si on ne change pas les règles du jeu.
C'est très clair.
Si on n'est pas capable d'avoir un choc de confiance, il faut que les investisseurs reviennent, il faut pour ça leur donner des outils sur lesquels investir dans le neuf comme dans l'ancien, il faut que les bailleurs sociaux retrouvent de l'oxygène pour rénover et investir, et surtout, il faut qu'on ait un choc de simplification majeur. C'est pas possible dans ce pays, alors qu'on a su faire Notre-Dame, on a su faire les JO, qu'il faille 10 ans pour faire sortir un projet de terre. Ce n'est pas possible.
C'est clair.
Et donc, évidemment, donc les statistiques, elles sont pas surprenantes, parce qu'en réalité, on paye aujourd'hui dans les chiffres ce qui n'a pas été produit l'année dernière, l'année d'avant, et donc les 5, 6, peut-être même les 10 dernières années. Donc, évidemment, si on s'arrête sur les chiffres, la photo instantanée n'est pas bonne, mais en revanche, là où moi j'ai de l'espoir, et effectivement, il faut du courage, mais il faut un optimisme combatif surtout, c'est que le projet de loi Relance Logement a été adopté au Sénat, que les sénateurs ont bonifié la copie, que j'ai bon espoir de le présenter très rapidement à l'Assemblée nationale, où là, évidemment, la composition même de l'Assemblée nationale fait qu'on ne sait pas exactement comment les débats vont améliorer ou pas le texte, mais en tout état de cause, je sens une envie de tous les groupes politiques ou presque d'aborder cette thématique du logement, d'en débattre, parce que tout le monde au moins partage le constat qu'il faut sortir de la crise du logement. C'est bon pour nos entreprises et c'est surtout bon pour les Français qui attendent pouvoir mieux se loger.
Vous, plus que quiconque, êtes concerné par cette question puisque vous avez été un élu local, maire de l'Ille-et-Rose, député, puis ministre. Donc vous, le terrain, vous le connaissez, il faut être très clair. Est-ce que les maires aujourd'hui, vous avez cette impression qu'on leur a redonné un peu de marge de manœuvre ?
Pas encore assez. J'étais élu local et je demandais plus de liberté locale, donc je n'ai pas changé en devenant ministre. Et d'ailleurs, j'ai dans le projet de loi des outils qui veulent redescendre la politique du logement au plus près des élus locaux, des agglomérations.
Ça vous a aidé d'être maire dans vos projets?
Je peux vous dire que ça permet, y compris quand on discute avec l'administration, par exemple, de leur dire « Attendez, sur le terrain, ça se passe pas comme ça. On va revenir aux fondamentaux. Ouais. » Mais il n'y a pas beaucoup de ministres qui vous diront « Moi, ma politique publique de mon ministère, j'ai envie d'en faire moins au niveau national et plus au niveau local. » Eh bien, moi, maire dans l'âme pour toujours et vraiment élu local convaincu, je pense qu'il n'y a rien de plus territorialisé que le logement. On ne construit pas pareil sur les côtes bretonnes ou sur la côte niçoise ou au sommet d'une montagne ou en banlieue parisienne. Et donc, il faut leur redonner les outils au plus proche du terrain. Donc, évidemment, c'est important. Et au-delà de ça, je pense que quand on parle de production de logements, par exemple les logements sociaux, il faut redonner plus de pouvoir aux maires, y compris dans les attributions, pas pour faire du clientélisme, au contraire, mais pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une politique de peuplement. C'est un mot un peu technique,
mais qui dit les choses.
Parce que non, on veut éviter quoi? On veut éviter la ghettoisation, donc il faut un parcours résidentiel, il faut un équilibre socio-économique dans les quartiers. Qui connaît mieux sa sociologie locale que le maire?
Bien évidemment. Alors, autre sujet d'importance, alors les chiffres, vous les connaissez également, outre le fait que l'INSEE a classé le logement comme un produit de luxe, a fait passer la charge contrainte du logement. Aujourd'hui, statistiquement, elle est passée à plus de 26% en charge contrainte. Elle était en 2022 à 18%. Donc aujourd'hui, payer son loyer ou manger, c'est presque vrai au quotidien. C'est désespérant quand on voit les situations. Et justement, je voulais parler de deux sujets. Le sujet des jeunes actifs qui arrivent en agglomération pour signer un contrat à durée indéterminée, mais ils ne trouvent pas de logement, donc ils renoncent. Mais également les étudiants. Ils sont 20% à renoncer à leurs études. On voit les chiffres aujourd'hui du logement. On voit des écarts et des restes à vivre sur Paris intramuros et sur l'Île-de-France de 1 300 € par mois. C'est juste insupportable. Est-ce que ça veut dire qu'on vit dans un pays où le logement est tout simplement structurellement devenu inaccessible pour cette génération ?
C'est effectivement quelque chose qui est au cœur de mes préoccupations et j'aimerais qu'ensemble, tous ensemble, on arrive à le mettre au cœur des préoccupations de tous les candidats de l'élection présidentielle. Parce que vous le disiez à l'instant,
c'est génial.
On est à la veille de l'élection présidentielle. Moi, il y a plusieurs candidats là, qu'on a croisés, on les a interpellés sur ce sujet parce que, et quand je dis ça, je ne fais pas de politique partisane, je dis il faut que ce soit au cœur de tous les programmes politiques. Un candidat à la présidentielle qui ne parle pas de ses solutions pour résoudre la crise du logement ne mérite pas le soutien des électeurs, je veux le dire comme ça, mais vraiment,
ça le mérite d'être clair,
c'est un enjeu majeur parce que c'est le quotidien des Français, c'est le pouvoir d'achat, vous venez de le dire très clairement. En 10 ans, on a perdu 25 mètres carrés de pouvoir d'achat. 25 mètres carrés, c'est le studio de l'étudiant qui ne pourra pas venir faire ses études là où il a été pris à l'université ou ailleurs. C'est le jeune actif qui ne pourra pas démarrer dans la vie, donc ce n'est pas acceptable. Au-delà de la question de l'élection présidentielle qui devra apporter des solutions durables et pérennes, on a déjà un travail partenarial avec des structures comme Action Logement, par exemple. Action Logement, on le disait tout à l'heure,
c'est un formidable outil.
Absolument formidable, qui est surtout pour l'État un magnifique partenaire, parce qu'encore une fois, c'est l'outil des entreprises, de façon paritaire avec les patrons et les salariés qui pilotent cet outil pour loger les salariés en France, mais pas que les salariés. Et on le voit, il y a une politique autour des résidences étudiantes qui est de grande qualité. Du côté État, avec la BPI, on a débloqué beaucoup d'argent pour pouvoir avoir là aussi un énorme plan d'investissement pour produire du logement étudiant. C'est vrai aussi pour le logement jeune actif. Et puis avec Action Logement que je citais, on travaille à ce qu'on appelle des résidences à vocation d'emploi qui permettront justement de loger des jeunes actifs, des étudiants de manière efficace et notamment leur permettre de s'installer sur un territoire pour quelques mois, mais le temps de poser les valises, par exemple pour un jeune actif, de terminer sa période d'essai. Parce que c'est
déjà... un urbanisme de transition, quoi, en quelque sorte.
Exactement. Voilà. Exact. Et mais... d'une manière générale, il faut un choc.
Alors, je voudrais qu'on avance justement le marché locatif. Alors, carrément, il est vitrifié, on pourrait dire même les choses comme ça. Un rétrécissement de l'offre locative de plus de 60% dans cette région, dans certaines régions, et notamment, bien sûr, en Île-de-France. Une offre à la location, 300 dossiers, enfin, c'est désespérant absolument. Est-ce que la France a découragé les propriétaires bailleurs, Vincent Jeanbrun?
Alors d'abord, la crise du logement, elle frappe tout l'Occident, l'Europe, quand même.
Mais quand on voit les taux de rentabilité sur l'investissement, on voit massivement des investissements.
Ce que je peux vous dire, c'est que les Français, j'en rencontre, qui ont toujours envie d'investir dans la pierre. Soit, pour l'instant, ils mettent de côté en attendant de voir si la situation s'améliore, soit ils investissent toujours dans la pierre, mais à l'étranger. Donc c'est la preuve vraiment qu'au fond, il y a une envie, il y a une appétence, mais qu'on ne sait plus la diriger sur notre territoire. Pour ça, il y a plusieurs sujets. Si on prend les deux principaux, il y a celui de la rentabilité économique. Bon, c'est comment je suis taxé, est-ce que j'ai un avantage fiscal. On sait que la fin du Pinel, voilà. La fin du Pinel a fait du mal, donc oui. On a relancé dans le neuf le dispositif dit Jeanbrun, mais l'idée c'est que dans le projet de loi, on puisse avoir aussi un dispositif pour l'investissement dans l'ancien. Oui. Qui
vous l'avez musclé d'ailleurs, votre dispositif.
Hein. Il s'est musclé à l'Assemblée, au Sénat, pardon, il va probablement peut-être se muscler à l'Assemblée. En tout état de cause, il faut recréer une rentabilité. Mais c'est un seul sujet, il ne suffira pas si de l'autre côté, on n'est pas capable de redonner aussi de la confiance. Dans la confiance, dans deux choses, la capacité à jouir de son bien, on évite le squat, on évite les professionnels de l'impayé, ça c'est une chose. Mmh. Et puis aussi, une confiance dans le fait que les règles, elles ne vont pas changer tous les deux matins.
La fiscalité, par exemple.
Alors il y a la fiscalité, mais il y a aussi la capacité à fixer son loyer. Quand vous avez des villes qui s'amusent à mettre un plafonnement des loyers, ça a été le cas de cette expérimentation,
oui.
Et que derrière, en fait, le propriétaire, il se dit, mais en fait, je fais tout mon modèle économique sur le fait que je vais pouvoir avoir tel loyer, puis qu'il va pouvoir augmenter en fonction de l'inflation, etc. Et puis derrière, vous
jour au lendemain, on change les règles. Quoi, voilà.
Et puis jour au lendemain, on change les règles. Donc si on veut redonner vraiment un élan à ces investisseurs qui sont toujours là, ils ont toujours envie d'investir, eh bien, il faut leur dire, ça va être rentable. Hein, l'idée, c'est pas qu'ils fassent des milliards, mais
non,
on assume de dire, vous prenez un risque financier.
Vous avez des valeurs mobilières qui sont à 3-3,5%, ils ne demanderaient pas plus. Hein, c'est pas le...
L'idée, c'est que entre je mets de l'argent dans un PEA et j'investis dans la pierre, eh bien, on se dit, j'investis dans la pierre. Parce qu'il faut se dire une chose, hein, on ne dort pas dans un PEA, et comme on ne dort pas dans un PEA, on n'arrivera pas à loger les Français. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, leur garantir une forme de stabilité, c'est-à-dire qu'au moment, au moins, où vous signez le contrat de bail, on sache que les règles qui s'appliquent à ce bail ne vont pas changer tous les deux matins en fonction de la réglementation locale, nationale, etc. Et c'est ça, plus le fait qu'on leur dise « vous serez protégés contre les squats et les impayés », je pense qu'il y a le chemin. En fait, on connaît le chemin qu'il faut prendre pour pouvoir résoudre cette crise de confiance avec les investisseurs.
Alors, vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de simplifier avec un courage politique qui fait finalement une belle transition, puisque on voit, alors maintenant, bien évidemment, gagnez-vous vos arbitrages vis-à-vis d'une administration centrale quand même très puissante, c'est un autre sujet. Mais on voit également que vous n'étiez pas forcément favorable à l'encadrement des loyers, finalement, si on y réfléchit bien. Est-ce que l'encadrement des loyers aujourd'hui, si on devait faire une photo, et je sais que ces données-là, vous les avez, est-ce que finalement ça a produit une offre meilleure? Est-ce que ça a permis d'endiguer peut-être une forme de spéculation sur les prix des loyers?
Ici, on a la REF, on connaît les règles du marché, l'offre et la demande.
Bah oui.
Bon, par définition, quand vous bloquez les prix, c'est la quantité qui ajuste. Hein. Donc la réalité, c'est que le plafonnement des loyers, parce qu'en fait...
Donc là où c'était une bonne idée, finalement, ça s'est avéré...
En fait, c'était probablement... Il y avait peut-être une bonne intention derrière, qui était de protéger une explosion du prix des loyers, et je peux le comprendre. Sauf que là, on a un rapport d'experts qui est extrêmement clair. Il va y avoir un rapport de la Cour des comptes qui va démontrer à quel point ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que ça a raréfié l'offre de location. Ça n'a protégé un petit peu que ceux qui étaient déjà dans les logements, donc ça n'a pas permis à ceux qui en manquent de logements d'en trouver. Et en plus, ça a bénéficié essentiellement aux 8e et 9e déciles, c'est-à-dire aux personnes les plus aisées. Donc c'est pas tout à fait l'objectif de départ qui était d'aider ceux qui ne trouvent pas de logement à se loger.
C'est clair.
Donc là-dessus, moi, effectivement, je comprends qu'il y ait des groupes politiques qui ont envie de défendre l'expérimentation du plafonnement. Il y a d'ailleurs un texte de loi qui avance, mais ma position personnelle, je l'ai toujours exprimée très clairement de ce point de vue-là. Les règles de l'offre et la demande s'appliquent là aussi.
Il y a deux autres sujets très rapidement sur lesquels je voudrais avoir votre point de vue, bien évidemment, qui est celui de la transformation des bureaux en logement. 53 millions de mètres carrés sur Paris-Île-de-France, 4,5 millions de mètres carrés vides, dont 2,5 millions obsolètes. Ce qu'on appelle en anglais des stranded assets, c'est-à-dire des assets naufragés qui n'ont plus preneur, donc qui ne valent plus rien, qui ne valent absolument plus rien. Récemment, une opération a été achetée à 500 euros du mètre carré de 20 000 mètres carrés à Argenteuil, par exemple. C'est la preuve qu'on peut reconvertir. Première question, est-ce que c'est un mythe ou une réalité de le faire? Alors, apparemment, il y a quand même des opérations qui ont très bien fonctionné. Je fais notamment allusion à l'opération Gessina, la transformation de Subtelecom rue d'Arreau, dans Paris, qui a été 120 logements, dont 20 réservés aux bailleurs sociaux. Démonstration que ça a pu fonctionner, mais grâce à la surélévation. Est-ce que ça vous poussez dans ce sens, nécessairement, bien évidemment? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie alternative à la concentration et l'empattement urbain?
D'abord, on n'a pas le choix. Si on veut préserver nos terres agricoles et nos terres naturelles, il va falloir, à un moment donné, penser la ville sur la ville. D'ailleurs, en Île-de-France, et c'est un conseiller régional d'Île-de-France qui vous le dit, on a du foncier. Il n'est pas disponible, il est occupé, mais c'est du foncier qu'on peut convertir. On a connu pendant des années la reconversion des friches industrielles. On arrive au bout de cette reconversion. Mais au moment où on y arrive, on voit apparaître une nouvelle forme de friche, c'est la friche
bureau,
la friche tertiaire.
Absolument.
Qui est en train d'arriver.
Avec un surstock phénoménal en, en zone périurbaine, par exemple.
Et donc, il y a de quoi faire. Mais il y a une problématique de réalité économique, c'est-à-dire que quand vous achetez le bureau, bah, d'abord, il faut effectivement que le propriétaire accepte la dégradation de la valeur du bien, parce qu'il essaye de, s'il essaye de vous le vendre au prix auquel il l'a acheté, ça ne tient pas. Mais même à ce moment-là, on se rend compte que nos règles de construction, et là vraiment, c'est nous qui nous fixions des barrières et des boulets au pied tout seul, montrent qu'en fait, même quand vous achetez un bâtiment tout beau, tout neuf, qui a déjà un escalier, qui a déjà l'ascenseur, qui a déjà les places de parking, etc., vous dites, bah, en fait, je vais faire des économies. Je veux dire, ceux qui nous écoutent se disent, bah, y a déjà l'escalier, on ne va pas le casser, on a déjà les places de parking, on ne va pas les casser, etc. Non, parce qu'on est en France et que le droit de la construction pour les logements et le droit de la construction pour les bureaux n'étant pas le même, les marges d'escalier ne font pas la même taille. Donc, le type qui achète un immeuble de bureau, il va devoir casser l'escalier, il va devoir casser les places de parking parce qu'elles ne font pas la même taille que dans le droit de la construction, etc. Donc là, je pense qu'on doit pouvoir, et j'espère que mon texte de loi va y arriver, faire en sorte qu'on ait ce qu'on appelle un nouveau statut de bâtiment, qui soit le bâtiment reconditionné. Et là, on peut recréer un modèle économique, on peut accélérer la conversion de la friche tertiaire. Et puis, moi, j'étais maire, j'ai participé à la rénovation de mes quartiers et on a créé de la hauteur. On a créé une forme de densité parce que ça permettait d'apporter plein de services publics tout autour. On l'a assumé. Quand on fait du beau, quand on fait de la qualité, on peut assumer de monter un petit peu.
Merci Vincent Jeanbrun. Je rappelle que vous êtes le ministre du Logement. Je sais que votre temps est compté. J'espère la prochaine fois avoir un peu plus de temps pour creuser cette idée. En tout cas, un grand merci d'être venu sur le plateau à suivre nos émissions ici en direct de Roland-Garros pour la rentrée économique du MEDEF. À tout de suite.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.